Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio, après une matinée de consultation, il est là, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'intestin irritable, un trouble digestif qu'on appelle aussi la colopathie fonctionnelle. Ça touche plusieurs millions de Français, le plus souvent des femmes. Alors quels sont les symptômes les plus courants? Comment pose-t-on le diagnostic et surtout quel rôle joue l'alimentation et le microbiote, notre flore intestinale, dans cette maladie? Pour en parler, dans le détail, nous recevrons le professeur Jean-Marc Sabaté. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Focus cet après-midi sur l'épine calcanéenne. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais si je vous dis douleur lancinante au niveau du talon, surtout le matin, si cela vous arrive, attention, il s'agit peut-être de cette pathologie de la voûte plantaire. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question des positions sexuelles.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la question d'Amandine, une future maman de Dreux.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vais quand même poser une petite question. J'ai bientôt accouché et je voulais savoir s'il existe du yoga postnatal et surtout à quoi cela me servirait. Merci beaucoup, au revoir.
Alors c'est vrai Jimmy, je ne sais pas si vous vous rappelez, la saison dernière, on avait fait... Ah non, vous vous rappelez pas, bah c'est dommage, on avait fait une émission sur le yoga prénatal. Et là, la question, elle porte sur le yoga postnatal. Donc, vu que vous en rappelez pas, je ne vais pas vous poser la question à vous. Heureusement, on a interrogé, pour en savoir plus, la prof de yoga, Émilie Yana, qui vient justement de sortir un livre qui lui est consacré chez Solar Edition. Elle nous explique ce que c'est.
Le bienfait corporel primordial, c'est reprendre possession de son corps. Parce que pendant 9 mois, on a eu un corps qui s'est transformé. Il y a eu la vie à l'intérieur. Et puis, d'un coup, il y a plus rien. Il faut se remettre de tout ça. Donc déjà, des exercices pour soulager le périnée et le plancher pelvien. On va aussi travailler beaucoup sur la remise en place des viscères. Parce que l'utérus, qui a énormément... grossit, va diminuer d'un coup et ça va faire un gros vide dans le ventre et il va falloir aussi travailler à la fermeture des côtes et du bassin. Le post-natal, surtout juste après l'accouchement, c'est vraiment quand on le sent. C'est des petites sessions de 5-10 minutes, c'est quelques exercices. Ça va pas être une posture sur son tapis à faire le chien tête en bas ou le guerrier. Non, pas pour l'instant. Il faut attendre au moins 8 semaines que tout se remette en place. Et aussi, ça peut servir à gérer ses émotions, avec tout ce que ça implique au niveau hormonal de la période du postpartum.
Voilà, vous savez presque tout sur le yoga postnatal, Jimmy. C'était Émilie Yana au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va passer à une deuxième question du jour. Cette fois-ci, elle est vraiment pour vous. C'est une question d'Aurélia. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Mon papa est greffé du rein depuis longtemps. Il n'est pas très âgé, il a 56 ans et il est en bonne santé. Malgré tout, en tant que transplanté, il est quand même plus à risque vis-à-vis du coronavirus et je me demande si je dois arrêter de l'embrasser par exemple. Merci beaucoup, au revoir.
Alors Jimmy, question simple, enfin simple, je ne sais pas si c'est simple, mais elle est précise en tout cas. Est-ce que les personnes transplantées, comme le papa donc d'Aurélia, sont plus à risque de faire réellement une forme grave de Covid ou pas?
Alors c'est vrai que c'est pas une question si simple, puisque on sait que le principal facteur de risque de faire une forme grave de Covid, c'est plutôt l'âge. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes à risque de complications, et peut-être même parfois indépendamment de vos pathologies. 9 personnes sur 10 qui sont décédées du Covid avaient plus de 65 ans. En revanche, lorsque vous êtes transplanté, vous avez des traitements immunosuppresseurs. Pour accepter cette greffe, eh bien, ces traitements vous rendent plus fragile vis-à-vis des infections en règle générale. On n'aime pas que ces personnes fassent de la fièvre, attrapent une gastro, la grippe ou même le Covid. Et souvent, elles ont d'autres pathologies associées. Ce n'est pas le cas pour le papa de cette auditrice. Mais souvent, ils ont du diabète lié aux corticoïdes qu'ils ont pris. Ils ont de l'hypertension, parfois du surpoids parce que le régime a été difficile. Et donc, ils sont à risque. Donc, considérez-le du coup à risque. Et du coup, il faut peut-être être un peu prudent et peut-être faire attention au contact.
J'allais vous dire, est-ce que du coup, la question elle est très précise. Elle demande si elle peut continuer à l'embrasser en ce moment quand elle le voit. Vaut mieux pas.
Hein. Je pense que c'est compliqué puisqu'il est fragile. Et puis ça va dépendre aussi
la bise,
de vos comportements.
De toute façon, c'est plus très à la mode. Hein.
C'est vrai que c'est plus à la mode. On pouvait peut-être le faire au mois de juillet quand l'épidémie s'était un peu calmée. Mais là, je pense que c'est compliqué. Il faut faire aussi attention à ce que vous faites dans la vie. Si vous faites du télétravail, vous êtes chez vous, il n'y a personne, vous portez un masque en permanence, a priori, vous n'êtes pas porteur du virus et vous n'êtes pas asymptomatique. En revanche, si vous fréquentez des bars, vous sortez, eh bien, vous êtes en contact avec des personnes qui peuvent vous transmettre le virus et vous pouvez le transmettre aux proches. Donc à ce moment-là, la bise, je pense qu'il faut faire attention.
Donc les transplantés, on a compris. Et juste pour nous rappeler, puisqu'on est sur le sujet, vous avez dit l'âge, principal facteur de risque, au-dessus de 65 ans. Il y en a d'autres quand même. On sait que les personnes souffrant d'obésité aussi sont très à risque.
Exactement. Alors moi, j'ai envie de dire, ouais, considérez-vous tous à risque. Ouais. Tous. Même vous, Mélanie, vous êtes jeune, en bonne santé. Mais le risque, c'est que vous transmettiez le virus. Oui, vous êtes jeune. Pour les médecins, vous êtes jeune. Vous transmettiez le virus à des personnes plus fragiles. Donc même si pour vous, vous n'aurez pas d'impact sur le court terme, on ne connaît pas les conséquences du virus d'ici 20 à 30 ans. Si on se rend compte malheureusement que ça entraîne d'autres pathologies, on aura l'air malin. Et donc, considérez-vous tous à risque. Ça nous permet d'avoir des gestes simples, de porter un masque, de se mettre loin des uns des autres, de se laver les mains et d'être vigilant. Il ne faut pas jouer la roulette russe avec le virus, même si pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes dans certaines régions et plus inquiétantes ailleurs.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Amandine, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Jean-Marc Sabaté. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Vous êtes également l'auteur du livre « Intestin irritable, équilibrez votre microbiote et faites la paix avec votre côlon » aux éditions Larousse. Professeur, disons ce qui est. Le côlon irritable, la colopathie fonctionnelle, c'est pas un sujet très sexy, mais c'est quelque chose de très concernant. D'abord, c'est une maladie qui concerne combien de Français, grosso modo ?
Alors, on estime actuellement que ça concerne 5 à 10% de la population adulte, donc facilement plus de 3 millions de personnes, alors à des degrés divers, puisqu'il y a des gens qui ont des sévérités importantes, la maladie peut gâcher leur vie. Et pour d'autres, ils vont simplement consulter une fois de temps en temps. Certains même ont des symptômes, mais ne consultent pas.
Jimmy ?
Et ça concerne quel type de patients ? Plus des hommes, des femmes ? Est-ce que plutôt des jeunes, des
Alors,
vieux ?
Ça concerne plutôt des femmes. On a 2 femmes pour un homme parmi les malades. Et c'est souvent des sujets jeunes. En tout cas, c'est comme ça qu'on se les imagine en consultation, notamment en médecine générale. Mais ça peut toucher en fait tous les âges. Là, on a fait une enquête avec une association de patients et on a vu que parmi des sujets qui ont la maladie à l'âge adulte, il y en avait 42% qui avaient déjà eu la forme pendant la scolarité avec un impact dont on pourra reparler si ça vous intéresse. Et puis, on a aussi des gens qui sont retraités et qui ont été malades pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, ça peut toucher en fait à tous les âges.
Professeur Sabaté, je vais insister dès le début de cet entretien sur un point, hein, l'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle, c'est une vraie maladie. C'est très important de le dire car elle est encore trop niée, je crois, par le corps médical même.
Alors effectivement, il y a ce problème-là d'une maladie où les examens qu'on réalise sont normaux. Si vous avez du diabète, vous pouvez montrer les résultats de votre glycémie. Si vous avez une maladie digestive, qui est la maladie de Crohn, on peut montrer le résultat de sa coloscopie, qui peut montrer des ulcérations. On a des prises de sang qui sont anormales. Là, tout est normal, tous les examens sont normaux et vous êtes relativement jeune et avez l'air bien portant.
Jimmy ?
Bien portant, vous avez des symptômes. Du coup, quels sont les plus fréquemment retrouvés chez les patients ?
Alors les symptômes d'ailleurs qui font partie de la définition, puisqu'il n'y a pas de test diagnostique, c'est le fait d'avoir de manière chronique, on estime qu'il faut au moins depuis 6 mois, des douleurs abdominales relativement fréquentes. On estime actuellement avec la nouvelle définition que ça doit être plus d'une fois par semaine. Mmh. Et c'est associé à une modification de la fréquence ou de l'aspect des selles, avec des gens qui ont plutôt la diarrhée, d'autres qui sont plutôt constipés et certains qui ont une alternance entre diarrhée et constipation. Les ballonnements ne font pas partie de la définition, mais ils sont très fréquents. On les retrouve chez plus de 90% des patients.
On parlait juste avant du fait que le corps médical lui-même parfois nie encore cette maladie. Et d'ailleurs, je crois que vous, dans votre cabinet, alors vous êtes spécialiste, hein, donc vous les voyez déjà souvent après quelques mois ou années d'errance médicale. Ils arrivent et les patients, par contre, ils ont déjà le diagnostic, ils se diagnostiquent tout seuls.
Alors effectivement, c'est une des rares maladies que je connaisse où souvent, certains patients viennent et disent « je pense que j'ai cette maladie ». Ce n'est pas une démarche habituelle puisqu'on dit « je suis suivi par mon médecin pour cette maladie » ou « on m'a diagnostiqué telle maladie ». Là, il y a souvent en fait, des patients qui recherchent finalement sur Internet, ils voient les examens qu'ils ont réalisés et ils trouvent que ça correspond en fait à la colopathie fonctionnelle, mais ça n'a pas été verbalisé par le médecin traitant. Et ça représente au moins 10% des patients.
Ah oui, quand même. Jimmy ?
Et justement, vous avez dit un des maîtres mots, donc c'est la douleur qui persiste avec la modification du transit. Mais ils ont quel type de douleur ? Des spasmes, ça tord, ça brûle ? Ou est-ce qu'on peut avoir tout un champ lexical de douleurs finalement ?
Alors, vous l'avez très bien dit, hein, c'est des douleurs qui peuvent toucher d'abord n'importe quelle partie de l'abdomen. Ça peut d'ailleurs varier, changer d'endroit. Et les douleurs, ce qui revient le plus souvent, c'est le mot spasme. Ça peut être aussi pesanteur, brûlure, mais il n'y a pas de spécificité là aussi. Donc c'est très vague finalement comme type de douleur.
Dans la colopathie fonctionnelle, il y a, vous l'avez dit, des troubles du transit. D'ailleurs, c'est un problème un peu tabou. Et vous, pour briser la glace, quand vous avez les patients qui viennent dans votre cabinet, vous avez une échelle, enfin un dessin sur lequel il y a 7 consistances de sel. Et ça fait partie des choses dont il est important de parler au début de cette maladie.
Alors oui, on a souvent des problèmes pour parler de cette maladie. Moi, effectivement, dans ma poche, dans la poche de ma blouse, j'ai une petite réglette qui représente les 7 types de consistance de sel.
Et avec ça a 7 caca, quoi.
Voilà, ça a été inventé. Ça a des sels très durs sous forme de billes, à des sels complètement liquides. Et ça a été inventé par des Anglais de la ville de Bristol. Donc on appelle ça l'échelle de Bristol.
Et les patients, ils vous disent « Mais oui, c'est celle-là,
voilà,
c'est la numéro 3 !»
Effectivement,
que j'ai...
ça m'est déjà arrivé que le mari, d'ailleurs, de la dame qui vient consulter, dise tout d'un coup,
s'ennuie
un peu. Voilà, pour moi, c'est comme ça.
Ça brise la glace, en tout
cas. Ça brise la glace, ça peut briser la glace.
Jimmy.
On fera votre échelle pendant la pub, si vous voulez, Mélanie, ouais. Comme ça, on brisera la glace encore plus. Mais on parlait tout à l'heure d'impact sur la vie, on parlait d'intestin irritable, on a l'impression colon fragile. Est-ce que ça peut avoir un vrai impact sur la qualité de vie des patients?
Alors, chez 25% des gens qui sont les formes les plus sévères, mais aussi chez d'autres patients moins sévères, on peut avoir une altération de qualité de vie qui peut être aussi importante, voire plus, que dans des maladies chroniques qui, elles, aujourd'hui, sont reconnues en ALD. Par exemple, des études aux États-Unis ont montré que c'était aussi sévère que des gens qui vont en dialyse 3 fois par semaine, que des gens qui sont en dépression sévère.
Oui.
Et par exemple, en comparant 2 maladies digestives et la maladie de Crohn, on peut avoir plus d'idées suicidaires et de tentatives de suicide, une altération plus importante de la sexualité que dans la maladie de Crohn.
Ouais, un impact très fort sur le quotidien. Professeur Sabaté, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur notre plateau aujourd'hui. Notre invité, c'est vous, professeur Jean-Marc Sabaté. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny et l'auteur du livre Intestin irritable, équilibrez votre microbiote et faites la paix avec votre côlon aux éditions Larousse. Vous la ferez la prochaine fois, d'accord Jimmy?
Sans problème, monsieur.
Si vous le dites mieux que moi. Alors, l'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle, professeur, c'est notre thème du jour. Et avec vous, vous nous disiez tout à l'heure que bien souvent, les patients se diagnostiquent tout seuls, enfin arrivent dans votre cabinet en disant « Ah là, sur internet j'ai trouvé, je sais ce que j'ai », parce qu'en fait, il n'y a pas d'examen particulier pour confirmer ce diagnostic.
Non, jusqu'à présent, aucun examen ne permet d'affirmer qu'on a cette maladie. Et finalement, il y a pas mal d'examens qui sont faits en France parce qu'ils sont remboursés, c'est assez facile de faire des examens, y compris une coloscopie. Mais ces examens sont tous normaux.
Et quand ils arrivent, d'ailleurs, ils en ont déjà fait un paquet d'examens en général.
En général, en France, c'est facile de faire des examens et même de les refaire. On avait fait une enquête avec la Sécurité sociale. Certaines personnes ont fait jusqu'à 3 scanners, qui n'ont aucun intérêt.
Eh oui.
2 échographies abdominales.
Des coloscopies, des fibroscopies.
Voilà, des examens faits et refaits parce qu'ils sont inquiets. Et donc, leur dire qu'ils n'ont rien, ça ne les rassure pas si on ne donne pas les explications qui vont avec.
Jimmy.
Donc, les examens sont normaux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'examen. Est-ce qu'on doit quand même en faire quand on a une colopathie fonctionnelle? Enfin, quand on pense en avoir une, et si oui, lesquelles?
Alors, c'est le médecin qui doit décider si vous devez les faire. Le médecin généraliste doit être au centre de la prise en charge. Et il y a certaines circonstances, notamment plus souvent peut-être en cas de diarrhée, pour éliminer des maladies qui pourraient ressembler, comme par exemple les maladies inflammatoires du tube digestif, qui peuvent donner des douleurs abdominales, de la diarrhée. On a aussi les troubles de la thyroïde, qui peuvent dans un sens constiper, dans l'autre donner la diarrhée. Aussi, ce qu'on appelle la maladie cœliaque, une intolérance au gluten, qui peut donner aussi des ballonnements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Donc, il y a certaines maladies à éliminer, mais elles ne sont finalement pas si nombreuses. Et quand on suit bien ces patients, on peut, avec l'interrogatoire simple, faire le diagnostic.
Et par contre, on est d'accord, Jimmy vous demandait s'il y avait quelques examens qu'on pouvait faire justement pour éliminer d'autres maladies éventuellement plus graves. Mais il y a des examens vraiment, par contre, qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'ils coûtent cher et que vraiment, ils ne servent à rien, lesquels?
Alors, vous avez raison d'en parler. Il y a 2 examens qui, aujourd'hui, ne servent à rien. Alors, il y en a un sur lequel on était mis un petit peu en alerte, avec même un communiqué de la HAS, c'est les tests d'allergie alimentaire. Ça coûte assez cher, entre 150 et souvent même jusqu'à 300 euros.
Ah oui.
Ça n'a strictement aucun intérêt pour guider le régime que devrait faire le patient pour avoir moins de symptômes. Et le deuxième test qui, aujourd'hui, n'a pas d'intérêt à titre individuel, c'est l'analyse de votre microbiote, qui peut coûter aussi jusqu'à 300 euros.
Microbiote fécal. Jimmy.
Est-ce qu'on sait s'il y a des facteurs de risque de développer la maladie? Par exemple, le stress, est-ce que ça peut déclencher des crises ou même tout simplement être un mode de début dans le syndrome de l'intestin irritable?
Alors, il y a 2 parties dans votre question. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas malades et vont développer un jour la maladie. Et certaines cohortes ont montré, en suivant des gens bien portants, que les gens qui avaient un terrain un petit peu anxieux ou déprimés ou qui s'intéressaient d'un peu trop près à leur santé, qui était un petit peu hypochondriaque, avait peut-être plus de chances de développer ultérieurement la maladie. Et puis, quand on est malade, quand on a des symptômes importants, eh bien, on craint de les voir venir, on craint d'avoir ces symptômes au moment où on a quelque chose d'important à faire, professionnellement ou sur le plan personnel. Et donc, ça génère une anxiété. Et il y a des gens, effectivement, qui rentrent dans une espèce de cercle vicieux où l'anxiété peut aggraver les symptômes. Et le simple fait d'y penser génère déjà les symptômes.
Alors le stress, d'accord. Est-ce qu'on connaît d'autres causes de l'apparition de cette maladie? Je ne sais pas, est-ce que c'est génétique? Est-ce que, je ne sais pas, un choc psychologique, une gastro?
Alors il y a des facteurs génétiques, mais qui aujourd'hui sont quand même relativement limités. C'est plus des facteurs qui pourraient favoriser ou non la réponse à certains types de traitements, comme c'est le cas par exemple dans les dépressions, avec ce qu'on appelle des polymorphismes. Et puis il y a d'autres facteurs, vous avez dit la gastro-entérite, effectivement il y a des gens qui vont très bien et puis ils vont faire une gastro assez forte. Si ça survient sur un terrain de stress et si l'épisode dure longtemps, on peut développer après jusqu'à 20% des gens pourraient développer dans les 6 mois qui suivent le syndrome de l'intestin irritable.
Ah oui, quand même. Jimmy ?
Du coup, est-ce qu'on peut imaginer un rôle de la flore digestive, de la flore intestinale, si la gastro-entérite a peut-être perturbé un peu cet équilibre ? Est-ce qu'il y a des flores particulières quand on a l'intestin irritable ?
Alors, dans ce sous-groupe en particulier, c'est là effectivement qu'on a mis en évidence que, par exemple, certains germes pouvaient favoriser via la gastro l'apparition de la maladie. Mais c'est un phénomène aigu et puis qui enclenche quelque chose de chronique, qui n'est pas sûr après qu'on garde ces germes-là. Par contre, quand on a pu faire des analyses du microbiote avec des techniques modernes, on s'est aperçu, c'est ce que disent en tout cas les études, que 2/3 des patients auraient un microbiote un petit peu différent de celui des sujets sains.
Dernière question pour le moment, en tout cas, cette maladie, donc l'intestin irritable, ça peut être très handicapant, ça on l'a compris, mais en tout cas, c'est jamais grave, ça ne peut pas dégénérer en cancer digestif ou je ne sais quoi.
Alors, c'est important de le rappeler parce que les gens qui ont des symptômes et sur lesquels on ne met pas de nom de maladie, quand on ne donne pas d'explication, les gens imaginent toujours le pire. Et ils imaginent que leur maladie peut se transformer en maladie inflammatoire de l'intestin ou en cancer. Donc, il est important de les rassurer, de leur dire que même si ça peut gâcher leur vie, c'est quelque chose de bénin et on va essayer de trouver des solutions pour les améliorer.
Justement, les solutions, on va y venir. On va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans un instant.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Jean-Marc Sabaté. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny et l'auteur du livre « Intestin irritable, équilibrez votre microbiote et faites la paix avec votre côlon » aux éditions Larousse. Alors, on parle à présent du traitement, donc du syndrome de l'intestin irritable. Parmi d'abord peut-être les mécanismes en jeu, est-ce que vous pouvez nous expliquer les symptômes, les douleurs? L'alimentation, on se dit forcément, ça a un impact. Ce qu'on met dans son tube digestif, ça peut peut-être causer des crises. Je crois qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent en disant « Docteur, j'ai identifié ça quand j'en mange. Typiquement, directement derrière, j'ai des douleurs. »
Alors, les aliments identifiés, effectivement, les patients en rapportent parfois. Mais globalement, c'est 2/3 des patients qui disent que le fait de manger ou déclenche ou aggrave les symptômes digestifs. Et certains, dans des études qui avaient été faites déjà dans les années 2000, 1/2 identifiaient un aliment responsable. Après, si c'est un seul aliment, c'est facile de l'éliminer. Si c'est un aliment sur deux, ça devient plus compliqué.
Jimmy ?
Parce que du coup, s'ils ont un régime d'éviction un peu draconien, puisque si c'est un impact sur leur vie, ils peuvent du coup moins manger, du coup avec un risque peut-être de carence en plus ?
Alors ça a été décrit effectivement. Quand on commence à éliminer un aliment, et puis un deuxième et un troisième, on finit par manger un peu toujours la même chose. Et il y en a même parfois qui, notamment ceux qui ont la diarrhée, sautent des repas quand ils ont quelque chose d'important, donc aussi peut-être moins de calories ingérées pour éviter les symptômes.
Certains patients ont tendance aussi à faire des jeûnes alimentaires. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'au contraire, ça peut apporter un bien-être à ces patients-là?
Alors pour certains, le fait de jeûner sûrement peut améliorer les symptômes. En tout cas, ce n'est pas recommandé. Hein. Il y a juste une étude japonaise qui l'a fait, mais ce n'est pas envisageable comme traitement sur la durée. Après, il y a certains régimes qui ont montré parfois une efficacité dans la maladie.
Justement, Jimmy.
Justement, quel régime on peut proposer à des patients? Un truc pas universel, mais qui pourrait marcher dans une bonne proportion des malades?
Alors, le régime qui est le plus en vogue actuellement, et sur la base d'études qui ont été réalisées essentiellement par des Australiens et après par des collègues européens, c'est ce qu'on appelle le régime pauvre en FODMAPs. En fait, c'est la diminution des sucres qui favorisent les fermentations. Et qui provoque des troubles du transit, de la diarrhée, des ballonnements, des flatulences.
Les FODMAP, alors c'est quoi précisément alors, comme aliment?
En fait, c'est un acronyme aussi, parce que ça ne veut rien dire en soi, c'est un acronyme pour dire l'aliment qui favorise les fermentations, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols.
Et en aliment, ça veut dire quoi?
Et en aliment, alors il y a ceux qu'on reconnaît facilement, le chou, il y a l'oignon, il y a... aussi certains fruits et que les gens ne pensent pas forcément leur augmenter les symptômes digestifs, mais par exemple les cerises, la poire, la pomme, la mangue. Donc, il y a tout un tas d'aliments. Donc, c'est assez complexe, de le faire. Il faut voir des diététiciennes formées où on peut s'aider d'applications ou de livres qui donnent les aliments ou les recettes. Et aussi, c'est difficile à suivre sur la durée.
Du côté des traitements médicamenteux, je crois qu'on peut dire que malheureusement, il n'y a pas un traitement de référence dans cette maladie.
Alors, il n'y a pas un traitement qui convient à tout le monde. Pour les patients les moins sévères, c'est souvent des antispasmodiques qui sont utilisés par les médecins traitants. Aussi, des modificateurs du transit. Quand les gens ont la diarrhée, parfois, on essaie de ralentir le transit, de rendre les selles plus épaisses ou d'accélérer le transit pour les gens qui ont un transit trop lent. Et puis, on utilise aussi parfois des antidépresseurs qui peuvent avoir un effet notamment sur la douleur et d'autres médicaments dont on détourne parfois l'utilité principale parce qu'on a peu de nouveaux médicaments en France concernant cette maladie.
En fait, du hors AMM, mais très encadré. Jimmy ?
Est-ce que le pouvoir de conviction du médecin est important si on reconnaît leur maladie, si on leur propose un traitement qui n'est peut-être pas le plus efficace, mais qu'on le donne avec conviction en disant « vous allez aller mieux », eh bien on va peut-être aussi les aider. On a peut-être nous un rôle, même si on n'a pas de traitement, dans la prise en charge de la maladie.
Ça pourrait éventuellement favoriser ce qu'on appelle l'effet placebo, de mettre beaucoup de conviction dans le traitement qu'on donne aux patients. Seulement, dans cette maladie, par expérience, souvent, le traitement que vous donnez va être inefficace. Et par exemple, en France, le premier motif de consultation, c'était l'inefficacité de ce qui a été prescrit. Donc finalement, je pense qu'il vaut mieux être prudent, expliquer qu'il y a une démarche, peut-être d'essayer différents traitements dont chacun peut être actif sur un ou un autre mécanisme, peut-être présent chez ce malade-là en particulier, et donc d'envisager une relation dans la durée. Et la relation médecin-patient qui est notamment abîmée dans cette maladie parce qu'ils n'ont pas l'air malades, c'est des gens qui ont l'air bien portants, le médecin ne les écoute pas trop. J'ai même une petite blague de gastro qui dit le colopathe me colopathe. Parce que c'est des malades qui reviennent un peu comme un chewing-gum, toujours en vous mettant en échec de ce que vous donnez. Je pense que la relation médecin-patient est très importante dans cette maladie.
Pour terminer, dans votre livre, vous parlez beaucoup du rôle du microbiote dans cette maladie ou de son intérêt, en tout cas l'intérêt d'agir dessus. Est-ce que les probiotiques ou les prébiotiques, il y en a beaucoup, même en supermarché, on nous vend des petits yaourts remplis de bonnes bactéries qui nous feraient soi-disant du bien. Est-ce que tout ça, c'est utile, c'est très fou, c'est que marketing ou est-ce que ça marche pour ces patients-là ?
Alors, ça a des chances de marcher si ça a été testé dans des études médicale bien faite et notamment contre un placebo parce que l'effet placebo est assez fort dans cette maladie. Si on a des résultats d'études, on peut s'appuyer dessus pour proposer le même traitement. Mais on ne peut pas extrapoler. Le mot probiotique en lui-même ne veut pas dire grand-chose. C'est comme le mot voiture. Une deux chevaux et une Ferrari, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est pareil. Si un probiotique a montré une efficacité, on pourrait proposer le même. Le patient le teste pendant un mois et si ça marche, pourquoi pas le continuer ? Sinon, aucun intérêt.
Jimmy, une toute petite dernière question.
Les yaourts au supermarché qui sont très riches en probiotiques ou un truc comme ça, est-ce que c'est efficace ?
Alors, certains ont été testés. Une marque célèbre a fait une étude avec deux yaourts par jour. Bon, il faut déjà les manger et ça améliorait la constipation, un petit peu aussi les ballonnements ressentis. Mais c'est insuffisant souvent pour les patients qui ont des symptômes sévères.
Merci beaucoup professeur Sabaté d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir bien éclairé donc sur cette maladie malheureusement encore si tabou mais qui touche des millions de Français. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant. Pourquoi vous rigolez comme ça?
Non, mais je crois que ce sujet va vous passionner. Vous m'avez dit juste avant, on parlait d'épines calcanéennes avec un petit...
Vous m'avez dit, c'est quoi au fait? Alors justement, focus sur l'épine calcanéenne. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, Jimmy non plus apparemment, mais on va en parler. On va écouter surtout ce que vous en savez. Benjamin Lévesque a été vous questionner sur le sujet. Savez-vous ce qu'est une épine calcanéenne? On écoute son micro-trottoir.
Une épine catayenne?
Calcanéenne.
Calcanéenne?
Alors une épine calcaïenne?
Une épine calcanéenne.
Une épine calcanéenne, je ne sais pas du tout. Je pense à la colonne vertébrale, je ne sais pas du tout si ça peut être lié à ça.
C'est un pic en fait.
C'est une épine dans le pied et qui fait très mal. C'est une sensation de piqûre dans le pied. Alors qu'il n'y a pas de piqûre du tout.
Bah, une épine, ça pique, donc je pense que ça doit être très dérangeant pour marcher.
Peut-être une injection d'un produit pour anesthésier ou réduire l'intensité de la douleur, je ne sais pas.
Je pense que déjà, il faut peut-être du repos, peut-être par un traitement d'antibiotiques, je ne sais pas, ouais.
Alors Jimmy, on plaisantait tout à l'heure, mais l'épine calcanéenne, vous connaissez ça très bien, puisque justement, en médecine générale, ça revient souvent, vous me disiez, pendant le micro-trottoir. C'est connu surtout donc, des patients qui en souffrent. Est-ce que vous nous expliquez physiologiquement ce qui se passe? Je crois que ça se passe au niveau du pied, du talon, mais il se passe quoi?
Exactement, donc on appelle ça aussi l'épine de Lenoir. C'est une petite excroissance osseuse qui se forme sur la face intérieure de l'os du talon. Et donc, à ce niveau-là, vous avez quelque chose qu'on appelle l'aponévrose plantaire.
Voilà, vous allez avoir l'air super intelligent aujourd'hui.
Mais un truc qui fait très chic dans les dîners, rassurez-vous. Mmh. Et ben, c'est une petite membrane qui est située sous le pied, qui va du talon jusqu'aux orteils et qui sert d'amortisseur. Et c'est elle qui permet la courbure du pied. Et à cet endroit-là, vous pouvez avoir cette petite épine qui va pousser sur une excroissance osseuse.
Bon, on a envie de savoir quand même pourquoi elle pousse cette épine, on préférait l'éviter, ça n'a pas l'air agréable.
C'est pas très sympa, surtout qu'en fait, lorsque cette aponévrose, cette membrane est trop sollicitée, vous avez une tension qui est trop importante et du coup, le corps voit ça comme une agression, ça entraîne des petites inflammations, des micro-traumatismes à l'endroit où va s'insérer l'os du talon au niveau de l'aponévrose et donc ça crée cette épine calcanéenne par la formation de cellules osseuses qui vont entraîner une excroissance, donc un nouvel os en quelque sorte.
En forme d'épine, je crois, à l'imagerie. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça.
Au niveau
ça,
du talon et qui est très douloureux lorsqu'elle parle d'elle.
Mais douloureux à quel point?
Eh ben, douloureux.
Parce que l'épine, on se dit, ça doit piquer, c'est des coups de couteau, c'est
non,
ça?
Non, ça peut vraiment handicaper les gens et ça peut survenir dès le réveil. Dès le matin, les gens ont mal au talon.
Quand ils posent le pied, qu'ils commencent
exactement
à marcher.
Et attention, quand on a mal au talon, vous n'avez pas forcément une épine calcanéenne, vous avez le droit d'avoir des rhumatismes inflammatoires, vous avez le droit d'avoir
ou
autre chose.
Une épine tout court coincée dans le talon.
Oui, une épine coincée tout court, exactement. Et donc, ils vont avoir des douleurs dès le lever ou parfois lorsqu'ils vont trop marcher et donc à la marche, ils vont avoir des douleurs inflammatoires. Et parfois, on va voir ça de façon fortuite à la radio. On vous fait une radio pour une entorse de cheville, puis d'un coup, avoir une épine, mais qui ne vous a jamais fait mal. Et donc, on ne la traite surtout pas. On traite simplement la douleur et les symptômes que vous pouvez avoir.
Alors justement, comment enfin, il faut consulter. J'imagine, si on a mal, de toute façon, en marchant, on se précipite chez le généraliste et on traite ça comment?
Alors, la prise en charge, elle est globale, puisque finalement, on n'a pas un traitement de l'épine calcanéenne, on en a plusieurs.
Vous n'arrivez même pas à le dire.
Le premier, c'est le repos. Lorsque vous avez mal, il faut faire attention, il faut moins marcher. Il ne faut pas hésiter à faire de la kinésithérapie lorsque vous avez des douleurs, à voir un podologue pour qu'il vous prescrive des semelles, parfois où vous n'avez pas des chaussures adaptées, et donc vous pouvez être soulagé. Certaines fois, le médecin vous prescrit des anti-inflammatoires qui permettent
en comprimé,
de
ça, hein,
en comprimé
ça,
exactement. De la même façon, lorsque vous avez des douleurs au niveau du dos, ben là, il peut vous faire la même chose. Et puis, dans les cas un peu plus avancés, on peut parfois faire des petites infiltrations à base de cortisone qui permettent
on
de réduire la douleur.
On pique dans le talon directement.
On pique au niveau du talon, c'est le rhumatologue qui fait ça. Ça reste assez rare puisque l'efficacité est plutôt partielle. Bref, vous allez voir votre médecin traitant et puis s'il y a un doute ou si on n'y arrive pas, vous allez voir le rhumatologue. Et en règle générale, on arrive à juguler la douleur pour avoir une qualité de vie acceptable.
Très bien, merci pour toutes ces précisions. On a compris que c'était donc une prise en charge globale pour l'épine calcanéenne. Merci beaucoup, Jimmy.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Elle entre dans le studio tout de suite, c'est Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Victor que je vais vous lire tout de suite. Cela fait plusieurs fois que ma copine me demande de lui faire l'amour debout. C'était très excitant au début, mais c'est tout de même très physique et peu pratique. Est-ce que je dois toujours céder à son envie ou lui dire que je n'apprécie plus tellement ça? Alors Catherine, est-ce que la copine de Victor, elle aime... Pourquoi finalement elle aime déjà autant faire l'amour debout? Ça c'est vrai que bon, c'est peut-être... Pourquoi pas? Cela dit, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'elle recherche dans cette position? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à le faire debout?
Je pense que c'est une position qui laisse à penser que c'est quelque chose de pas prévu. On coince quelqu'un, on le contraint, on joue à la contrainte, on joue à l'urgence, on joue à tout maintenant. J'ai tellement envie de toi que je ne peux pas prendre le temps ni de me déshabiller, ni de me mettre dans un lit, ni d'aller dans la pièce d'à côté. Donc il y a quelque chose qui... rencontre et de la sauvagerie et de l'urgence de témoigner de son désir, donc du pulsionnel très fort, de l'irrésistible que représente l'autre, à tel point que on la coince contre un mur, on lui relève sa jupe et vite fait, même mal fait, on lui fait l'amour. Sauf que effectivement, pour lui, c'est un peu plus compliqué parce que dans les faits, ça marche très très bien dans les films. C'est un peu plus compliqué dans le réel.
Il n'est peut-être pas très sportif comme d'autres. Jimmy, à vous.
vous voulez dire que Jimmy est sportif?
Non, non, je ne faisais vraiment aucun lien. Allez-y.
Pas de problème, ça se paiera. Mais je sais pas, Victor, il est peut-être un peu fragile, non? Parce que bon, il dit plusieurs fois, ce n'est pas quelque chose de récurrent. Si ça lui fait plaisir... Il faut faire un effort, non? Il faut peut-être accepter le temps
se muscler
de...
un peu, ça sera moins fatigant.
Exactement. Ouais. Alors, la fois d'après, ce sera moins difficile.
Je crois, alors, ce n'est pas évidemment, on ne va pas l'inviter à aller dans la salle de sport. D'autres résistent tellement, on ne peut pas pousser Victor à aller dans la salle de sport. Non, parce que en tout cas, ce qui n'a pas lieu d'être, c'est qu'il y en ait de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'elle a envie, on s'en amuse, et puis on lui met un marchepied s'il le faut, ou on se met un marchepied. Et d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est compliqué, déjà mécaniquement. Dans l'image, c'est très glamour, c'est super, mais dans la réalité, il y a des hommes qui bandent vers la droite, d'autres qui bandent vers la gauche. Donc ça veut dire qu'il faut savoir de quel côté on bande pour savoir quelle est la jambe qu'il faut soulever.
Ça a l'air technique comme truc, finalement.
Il y a des positions, non ? Peut-être qu'ils sont plus simples.
Bien sûr qu'il y a des positions plus simples, mais pas nécessairement. Bien sûr qu'il y a des positions plus simples. Toutes les positions plus simples sont les positions où le pénis va exactement par
sa physiologique debout. Enfin, c'est pas simple debout.
Ah ben, debout de face, ce n'est pas physiologique. D'accord. Debout de dos, c'est autre chose.
D'accord. Voilà. Mais
en l'occurrence, elle n'est pas nécessairement dans l'envie que ça se fasse autrement que comme ça. Donc ça pose aussi la question de pourquoi je veux absolument une position qui ne fonctionne pas. Après, si c'est pour avoir une idée que l'autre c'est Hulk et que mon partenaire il me prend, fort, il me soulève comme une plume, etc. Bon ben effectivement là c'est un petit peu ça ne marche pas. Donc il faut peut-être un marchepied, il faut peut-être quelque chose, des appuis pour aider un tant soit peu.
Et puis il n'a qu'à lui dire qu'il n'a pas envie, s'il n'a pas envie de le faire comme ça.
Mais avant ça, on en rit. Pas non, je ne veux pas céder à ses caprices. C'est-à-dire qu'il y aura d'un côté les caprices ou de l'autre, ben non, moi j'ai pas envie, faisons le truc classique. Ce qui va abîmer un peu tout. Non, dans la réalité, c'est qu'on essaie, on s'en amuse. Puis après, on finit allongé par terre parce qu'on n'a pas besoin d'un lit en effet. On n'est pas obligé de rester dans la position verticale. Ça peut se terminer complètement avachi sur le sol, au pied de ce mur où il devait se jouer je ne sais quoi. Enfin voilà, la sexualité doit rester un jeu et ça n'est pas une dictature d'un sexe sur l'autre, pas plus du masculin sur le féminin que maintenant du féminin sur le masculin.
Jimmy.
Parce que si finalement, elle veut faire ça de temps en temps dans le cadre d'un fantasme, on peut peut-être le comprendre, mais si bien c'est sûr. Récurrent et systématique qu'elle refuse le lit conventionnel et qu'elle ne veut pas faire l'amour dans son lit, peut-être que là il y a un problème.
Oui, c'est là qu'on pose la question, est-ce que je ne veux pas justement faire ce qui ne fonctionne pas pour rendre à l'évidence d'une impossibilité de relation? Alors ça l'arrangera de penser qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne satisfait pas ses besoins, ses désirs, etc. Mais elle se sera arrangée bien évidemment pour choisir exactement ce qui est inopportun entre eux, parce qu'encore une fois, l'emboîtement des corps, eh bien, ça oblige à prendre en compte la réalité des physiques de chacun. C'est-à-dire qu'un très grand avec une toute petite, vous imaginez bien, si elle est toute petite, il est très grand.
Il faut qu'il fléchisse
les jambes. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement très confortables. Deux personnes de la même taille, c'est pas encore... le volume des corps, or, on ne va pas toujours épingler tout. On peut voir qu'il y a des choses qui sont opportunes entre un couple.
On en rit, on change.
On essaie, on se marre, ça marche, ça marche pas. On trouve que franchement, dans les films, ils se foutent de nous parce qu'ils nous font croire que tout marche très très bien.
C'est pas faisable.
Parce que dans les films, effectivement, une femme, elle est plaquée contre un mur et ni une ni deux, non seulement il arrive à la pénétrer, mais la séquence suivante, elle est enceinte. Non, ça marche pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. J'avais oublié qu'entre la première et la deuxième, entre-temps, bien sûr, elle a eu un orgasme. Donc, en fait, évidemment que tout ça, c'est de la fiction et on rêve de ces trucs un petit peu qui sont des ponts rapides que nous avons entre un moment et un autre. La réalité est tout à fait différente et ça n'est pas un drame, ça n'est pas ni un caprice auquel on se soumet, ni au contraire une autre dictature qui est « Allez, poupée, reviens dans ce lit ». Encore que s'il le dit comme ça, peut-être ça peut marcher.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à Stéphane Bern avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, une émission qui va très bien à Mathieu parce qu'ils ont mystérieusement disparu.
Et qui ça?
Antoine de Saint-Exupéry, Jacques Vergès. Et bien alors, il s'est réservé ça, Mathieu. Loana du Loft. Oui.
Ah, on n'entend plus parler d'elle.
Oui, mais on ne sait pas justement, mais on le saura en écoutant très historiquement vôtre sur Europe 1.
Parfait. J'espère qu'on va la retrouver et tous les autres, évidemment, on sera à l'écoute. Merci beaucoup. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.